Bienvenue à notre école des disciples, bienvenue à ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est encore un autre mercredi que Dieu nous donne pour pouvoir entrer en profondeur dans cette compréhension du discipolat. Alléluia. Nous réalisons depuis un moment que le discipolat englobe tellement d'aspects de nos vies. Alléluia. Le discipolat engage beaucoup de domaines, beaucoup de départements. Tu ne peux pas être un disciple si tu ne prends pas tous ces étapes-là, tous ces départements-là en conséquence ou en considération. Alléluia. Donc c'est très important. En tant que disciple, nous sommes des managers. Un disciple, c'est un manager des affaires de Dieu. Dis à quelqu'un, un disciple, c'est un manager des affaires de Dieu. Alléluia. Un jour, Jésus est parti à la prière avec ses parents. C'était la grande convention à Jérusalem. Tout le monde allait célébrer Dieu à Jérusalem. Et la Bible dit que Jésus est parti et dans la foule, ses parents l'ont oublié. Et ses parents se sont avancés. Je me suis toujours demandé comment des parents peuvent chercher leur propre enfant. La Bible nous informe qu'il se disait peut-être il est avec la famille qui nous suit aussi derrière. Et on a constaté à la fin que Jésus était nulle part. Alors la famille a essayé de remonter jusqu'à Jérusalem et on l'a trouvé au temple en train d'enseigner. Et de l'inquiétude de ses parents, il va faire une réflexion intéressante. Il va dire, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Jésus s'est rendu compte très tôt qu'il était un disciple, qu'il était un administrateur des biens que son père lui avait confié. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que tu étais un administrateur des biens? Dieu t'a confié des biens. Dieu t'a confié des capacités. Dieu t'a confié des talents. Dieu t'a confié des idées. Dieu t'a confié des choses. Dieu t'a confié ton corps, ton temps, pour pouvoir le mettre à son service. Alléluia. Et c'est de ça que nous parlons depuis un moment. Le disciple et l'administration des biens confiés. Alléluia. Le disciple et l'administration des biens confiés. Bien-aimés, nous avons parlé du disciple comme un économe. Nous avons parlé du disciple comme de l'administrateur comme un économe. Nous avons parlé de l'administrateur comme un intendant. Alléluia. Nous avons parlé de l'administrateur comme un trésorier de Dieu. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Jeanne, qui était la femme de Chouza, l'intendant d'Hérode. Nous avons parlé de l'éunuque éthiopien, qui était l'intendant de la reine Candace d'Éthiopie. Nous avons parlé d'Eraste, qui était intendant de la ville de Rome, de l'église de Rome. Alléluia. Donc, nous avons vu que beaucoup de ces gens-là étaient des administrateurs. Nous avons vu Joseph lui-même, il était administrateur dans la maison. Il était intendant dans la maison de Potiphar. Et plus tard, il est devenu premier ministre. En d'autres termes, il est devenu intendant dans la maison de Pharaon, de tous les biens de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à prendre soin des petites choses, ce n'est pas les grandes que tu en prendras soin. Et la plupart du temps, Dieu nous accompagne dans notre formation en nous confiant des petites tâches. Et parfois, tu te sens tellement grand que tu te dis, ah, comment Dieu peut me donner un petit truc comme ça. Mais le petit truc-là va te mettre KO. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas de petites choses dans la maison de Dieu. Tout ce que Dieu te donne à faire, tout ce que Dieu souhaite que tu fasses dans sa maison et dans la vie des enfants de Dieu, a une importance capitale. Alléluia. A une importance capitale. Nous avons vu les objectifs de l'administration. Le but, l'objectif de l'administration, nous avons vu quelques objectifs. Premier objectif, l'objectif de l'administration, le soin de la création, le soin de la vie spirituelle des autres. Nous avons le devoir d'accompagner les autres. La proclamation de l'évangile, les dons de grâce, les dons spirituels. Alléluia. les biens matériels, notre corps, notre maison, notre temps, qui sont des choses sur lesquelles Dieu attend que nous puissions administrer. Revenons à notre texte de départ, Luc chapitre 12, le verset 42. Luc chapitre 12, le verset 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenant ?» C'est une question. Quel est donc l'économe fidèle et prudent? Regardez les qualificatifs que le Seigneur donne. Il dit l'économe comment? Fidèle et prudent. Et prudent. La fidélité ici est liée à la loyauté. La fidélité ici est liée également à l'intégrité. Alléluia. Il faut être fidèle dans ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que Moïse a été fidèle dans toute sa maison. La Bible dit que Jésus a été fidèle dans toute sa maison. Es-tu fidèle dans ce qu'on te demande de faire? Es-tu fidèle dans ta charge, dans ta responsabilité, dans tes dons, dans tes capacités, dans tes talents? Es-tu fidèle? Alléluia! Alléluia! Un disciple est quelqu'un qui suit un maître. Un disciple est un suiveur. Un disciple n'est pas un maître. Un disciple n'est pas un patron. Un disciple est un esclave. L'esclave du Seigneur. Paul s'est défini comme l'esclave du Seigneur. Alléluia! Paul s'est défini comme l'esclave du Seigneur. Alors, un esclave, c'est quelqu'un dont sa réflexion ne lui appartient pas. Quelqu'un qui n'a pas le droit de décision sur sa vie. Quelqu'un décide pour lui. Lui, il exécute. C'est un exécutant. Amen. Un esclave ne se pose pas la question, est-ce que ce que mon maître dit est vrai ou pas vrai? Il obéit simplement. C'est ça la différence. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens dans l'église qui n'obéissent pas seulement. Eux aussi donnent leurs pensées. Parce qu'on dit, ah, le Saint-Esprit, Dieu aussi me parle. Amen. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, aujourd'hui, Dieu te donne des biens, toutes ces choses que nous avons citées. Comment tu gères ça? En bon administrateur, en bon intendant. Regardez, il dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira? Que le maître, ce n'est pas toi qui t'établis. Ce n'est pas toi qui t'établis. Qui établit qui? Est-ce que l'économe établit le maître ou bien c'est le maître qui établit l'économe? Alléluia! C'est le maître. Il dit que le maître établira sur les gens, sur ces gens. Sur ces gens. Ça veut dire que ta responsabilité vis-à-vis des autres vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a établi sur ces gens. Ce n'est pas toi qui t'es établi sur ces gens. Ce n'est pas toi qui t'établis sur ces gens. Regardez, au lycée, nous avons des économas. Et les économas sont dirigés par des économes. Maintenant, qui établit l'économe? C'est l'État. Amen. C'est l'État. L'économe ne vient pas au lycée et dit, je suis économe. Et on dit, viens, prends le bureau. Non, non. Même pas le proviseur n'a le droit de regard sur l'économe. Est-ce que vous savez que l'économe dépend totalement du ministère des Finances, pas de l'enseignement secondaire, ni de l'enseignement de base? Amen. Ça veut dire son patron est ailleurs. Mais il est sous l'autorité du proviseur. Mais le proviseur n'a pas la capacité de le mettre hors jeu. Parce que son administration est ailleurs. Est-ce quelqu'un avec moi? C'est pourquoi tu es là. Ton administration vient de Dieu. Amen. Mais il t'a mis quelque part. Or, ça ne veut pas aussi dire que le proviseur n'a pas le droit, n'a pas un droit pour pouvoir apprécier son attitude. Parce que le jugement du proviseur aussi compte dans la vie de l'économe. Amen. Compte. Et parfois même pèse pour qu'on l'enlève et qu'on le mette sous sanction ou ailleurs. Alléluia. On a vu des proviseurs qui ont écrit sur les économes pour se plaindre. Et d'autres sont allés en prison à cause de ça. Amen. Bien-aimé. Le Seigneur attend de chacun de nous que nous puissions être des économes honnêtes, sérieux. Allons-y dans Luc, restons dans le livre de Luc. Allons au chapitre 16. Lisons les 9 premiers versets. Les 9 premiers versets. Alors, c'est très intéressant ce verset. Et c'est Jésus qui parle ici. Jésus parle ici de l'économe infidèle. Amen. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. C'est-à-dire, on est venu dire à cet homme riche, on est venu dire à l'homme riche que ton économe, il vole ton argent. Amen. Il vole ton argent. Et la Bible dit, il l'appelait et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile. Regardez l'intelligence de l'économe. Amen. Écoutez bien l'histoire. 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton bien, assieds-toi vite et écris 50. Il devait combien au départ? 100. Et il dit, il écrit combien? 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton bien et écris 80. Et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. La Bible dit que l'économe avait agi comment? Prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à leur égard, à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Waouh! C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Quel est l'enseignement de cette parabole? Rappelez-vous que Jésus parlait à la foule en parabole, mais à ses disciples. Il parlait avec un langage clair. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? En tant qu'administrateur, quel est l'enseignement que tu comprends? Première des choses qui est notée ici, c'est que la Bible nous dit clairement ici que c'était un économe malhonnête. Mais c'était un économe malhonnête. Première information. Mais un malhonnête qui était prudent. Qui était prudent pour son lendemain. Amen. À cause de l'argent qu'il avait volé, il avait mené une bonne vie. Il était compté parmi les grands. Et son maître l'appelle un jour, dit, rends compte. Ça veut dire que quoi? Fais le bilan de ton travail, dépose ta démission et va-t'en. Il réfléchit. C'est mince. Je n'ai qu'une semaine. Je fais comment? Je n'ai qu'une semaine pour partir. Je ne peux pas aller cultiver la terre. Tout le monde va se moquer de moi. Oh, te voilà, tu étais un grand. Te voilà qui mange le riz comme nous. La vie s'y tourne. On t'avait toujours dit. Alléluia. Il dit, je ne peux pas aller travailler la terre. Mendier, j'en aurais honte. Qu'est-ce que je fais? Il fait venir tous les débiteurs de son maître. Tous ceux qui devaient son maître. Il les fait asseoir. Il dit, toi, tu dois combien? Je dois 100 000. Écris 50 000. Parce que quand il va partir, le crédit de 50 000, tu seras redevable envers lui. Et à cause de ces redevances-là, tu vas toujours l'accueillir en bien dans ta maison. Cet homme m'a sauvé la vie. Vraiment. Est-ce que quelqu'un voit ça? Cet homme, cette femme-ci, elle m'a sauvé la vie. Quelqu'un qui te soulage de 50% de ta dette. Mais chaque jour, mange à ta table, il n'y a pas de problème. Amen. Il dit, toi, tu dois combien? Il dit, je dois 150 000. Il dit, bon, mais 100 000. Il sait que les 50 000 du haut là, c'est pour lui. Il va venir manger ça chez toi. Chaque jour. Il va toujours être bien reçu chez toi. Il va toujours être bien reçu au milieu des grands. Alléluia. C'est en cela que le Seigneur félicite sa prudence. Un homme prudent voit le mal de loin. Un homme prudent voit le mal de loin. Alléluia. La seule chose pour laquelle l'intendant infidèle pouvait être cité en exemple, bien-aimé, est le fait d'avoir songé à assurer son avenir. On ne l'a pas félicité parce qu'il est malhonnête. On l'a félicité parce qu'il a songé à assurer son avenir. Toi, est-ce que dans ton administration, tu songes au lendemain? Tu songes à rendre compte demain. Il s'est arrangé pour avoir des amis, même lorsqu'il aurait perdu son poste. Il agit en vue du futur et non du présent. Voilà la clé de la parabole. La parabole nous apprend ici, bien-aimés, que les gens du monde sont plus intelligents, sont plus sages dans la préparation de leur avenir sur terre que ne le sont les chrétiens dans la préparation du leur dans les cieux. Alléluia. Tous, chacun ici au milieu de nous doit se préparer à rendre compte de son administration devant Dieu le moment. Es-tu déjà prêt? Amen. Ceci nous donne de comprendre, mes bien-aimés, que nous n'allons pas seulement rendre compte auprès de nos pasteurs. Le moment viendra où nous allons déposer notre tablier sur la terre. Nous allons signer notre démission, ce sera la mort. On va se retrouver de l'autre côté là, il faudra rendre compte. Alléluia! Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du corps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des biens matériels que je t'ai donnés? Tu vas commencer à bégayer. Je vous assure, là-bas au ciel, là-bas au jugement, il y a beaucoup qui vont devenir bègues. Alléluia. Parce qu'ils chercheront les mots. On m'a dit que non, explique. On dit, mais sur la terre, tu parlais bien. Comment ici, dans la présence de Dieu, tout, même les muets parlent. Toi, tu deviens, tu n'as pas de problème, c'est comment? Parce qu'il ne s'est pas préparé. Vous voyez? Il ne s'est pas préparé. Et le Seigneur dit, faites-vous des amis au verset 9. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Nous pouvons utiliser les richesses matérielles pour gagner les âmes à Christ. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est ainsi que des intendants agissent pour assurer leur avenir, en investissant leurs biens matériels pour sauver des âmes pour l'éternité. Alléluia. Vous voyez, tout disciple est un évangéliste. Tout disciple parle de son maître. Alléluia. Tout disciple doit parler de Jésus. Cette semaine, combien de personnes tu as parlé de Jésus? Alléluia. À combien de personnes as-tu parlé de ton Seigneur? Ou bien je retourne la question. Cette semaine, combien de personnes t'ont parlé de leur Dieu? Qui est la nourriture? Qui est la vie? Qui est le mensonge? la tromperie, la fornication. Amen. C'est le Dieu. Et il t'évangélise dans le sens inverse. Mais toi, tu te tais, la foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur. Sache que c'est dans la foi, dans le cœur, là, que tu vas te retrouver dans le village de Si je savais. Parfois, quand tu dis, tu parles de Jésus, ça te protège de beaucoup de choses. Est-ce que vous savez ça? Il y a des endroits où, parce qu'on sait que toi, tu parles de Jésus, on va même plus s'approcher. On dit, ah, pardon, laissez-le. Alléluia. On ne va même pas te proposer. Non, non, il va venir gâter avec son Alléluia. Il va venir gâter avec son Alléluia. Mais hier, on savait que tu étais du milieu d'eux. Aujourd'hui, parce que chaque fois que quelqu'un met, c'est comment non, tu dis que Jésus sauve. C'est comment non, Jésus t'aime. C'est comment non, tu vas aller en enfer. Tu crois qu'il va revenir une quatrième fois? Il ne va plus revenir. Mais quand tu te tais, on dit non, non, il faut continuer à lui parler. Il va finir par accepter de venir dans nos choses. Amen. Alléluia. Quelle est ton administration? Quelle est ton administration? Jésus dit dans Matthieu 6, le verset 19 au verset 21, il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne et la rouille gâtent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la teigne ni la rouille ne gâtent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. 1 Timothée chapitre 6, le verset 18 au verset 19. 1 Timothée 6, 18 à 19. Qu'il fasse du bien, qu'il soit riche en bonne œuvre, qu'il soit prompt à donner, libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'il saisisse ce qui est vraiment la vie. J'écoutais le témoignage d'un des pères de l'Évangile en Afrique, et plus précisément au Ghana, il s'appelle l'archbishop Duncan William. Il inaugurait une belle église d'un de ses fils en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Et il disait quelque chose. Qu'un jour, il disait au pasteur, à l'évêque qu'il inaugurait son église, il disait, ça c'est rien. Si tu crois que tu es arrivé, tu as déjà échoué. Amen. Il dit, si ceci t'impressionne, frère, tu as déjà échoué. Tout ce qui est de beau sur la terre ne sera jamais comparable à une rue au ciel. En termes de beauté, en termes de richesse. Il dit, un jour, il est parti au ciel, il priait et le Seigneur l'a porté au ciel. Il est arrivé au ciel. Et l'ange de Dieu lui a dit, viens, je vais te montrer ta maison. Il est allé, il lui a montré la maison, elle était belle, elle était belle. Après, l'ange dit, viens, je vais te montrer la ville de ton grand-père dans la foi. Il s'appelait T.L. Osborne, il est décédé il y a longtemps. Il dit, viens, je vais te montrer la ville qui porte son nom. Il n'a pas dit la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il arrive, il se met sur la colline, il dit, ça appartient à qui? Il dit, toute cette ville de T.L. Osborne, toute cette ville, par sa vie de sacrifice pour le royaume de Dieu, il s'est bâti une ville au ciel. Il dit que, alors, quand il est sorti de la révélation, il était choqué. Il dit, mais moi, je n'ai que la maison. Lui, il a la ville. Alléluia. Alléluia. Hi. Il dit qu'alors il est parti en croisade. Il avait un programme aux États-Unis et il devait passer par une certaine ville. Et pendant qu'il se préparait à rentrer, le Saint-Esprit lui a dit, non, change de trajet. Passe plutôt par telle autre ville. Demande qu'on change ton pied. Tu passes par l'autre ville. Il dit, ah, moi, je n'aime pas la ville de Chicago, là. Et le Saint-Esprit dit, passe par là. Et donc, il passe par cet autre aéroport, par Chicago. Il arrive, il y a un retard de vol. Il doit attendre sur place 2 à 3 heures. Alors, il se décide d'aller prendre le café. Tout le monde s'alignait pour boire, pour prendre le cappuccino. Lui, il s'aligne. Et pendant qu'il s'aligne, il entend le Saint-Esprit lui dire, regarde là-bas, dans le restaurant. Il regarde, il voit Thiel Osborne assis. Son grand-père dans la foi. Il dépose son verre. Il part. Il tombe à genoux à ses pieds. Il appelle. Il dit, grand-père. Il dit, ah, Nicolas, tu fais quoi ici? Il dit, non, j'ai eu un vol qui a été détourné par ici. Il dit, grand-père, j'ai vu ta ville. Et il sourit. Il dit, j'ai vu ta ville. Moi, je n'ai que la maison. Toi, tu as la ville. Tu as fait comment? Il a dit, Nicolas, c'est pourquoi à l'âge avancé que j'ai ici, j'ai déjà 80 ans. Chaque jour, je suis sur le champ de mission, évangélisation. Je pars partout où Dieu m'envoie. À mon âge de 80 ans, je suis encore sur la route pour prêcher l'évangile. Et quand il a eu cette discussion, il dit, frère, vous qui êtes jeune, vous n'avez pas le temps pour bâtir votre ville. Vous n'avez pas le temps pour bâtir votre ville. Vous n'avez pas surpris qu'il y a... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui auront des maisons en planche au ciel? Je vous dis la vérité. Non! Ne dis pas même si c'est la planche. C'est quand tu vas dans la planche que tu vas être au ciel, que tu vas pleurer. Que tu vas pleurer parce que tu es sur la terre, tu dis même la planche. Chacun ici, par son administration, par sa manière de, par sa vie de consécration, par sa vie de sacrifice, envoie son matériel. Et l'archbishop raconte encore une autre histoire. Il dit, un jour, un homme de Dieu qui avait une grande église dans son pays est allé au ciel. Il était fier. Et l'ange de Dieu l'a pris et lui a dit, viens, je te montre ta maison. C'était une grosse villa, pleine de beauté. Il dit, waouh, il était fier. Il marche à l'intérieur. Il marche. Après, il sort. Il voit une grande maison plus flamboyante que la sienne. Il dit, ah, celle-là, à qui ça appartient? Et l'ange lui dit, tu sais à qui ça appartient? Il dit, non. Il dit, tu vois la dame qui est dans ton église, qui est dans les fauteuils roulants. Alléluia! Alléluia! Il dit, oui. Il dit, ça appartient à cette dame. Il dit, c'est pas normal. C'est injuste. Alléluia. Et moi, c'est moi le pasteur. C'est moi qui la nourris avec la parole, qui prie pour elle, qui jeûne pour elle. Il dit, frère, attends une minute, je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais que pendant les 20 ans de ton ministère, tous les miracles qui se produisent dans ton ministère, c'est l'intercession de cette femme. Chaque jour, quand tu arrives, à peine tu poses le pied à l'entrée, les miracles se produisent. C'est elle qui paye le prix. Qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? Nous devons être humbles les uns vis-à-vis des autres. Alléluia! Il dit que c'est parce que quand il est sorti de cette révélation, il a salué tout le monde. Il salue maintenant tout le monde. Quel est ton matériel? Tu envoies quoi? La teigne et la rouille. Vous voyez? Jésus dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Oh, la teigne et la rouille gâtent. Et où les voleurs percent et dérobent. Il dit, amassez-vous les trésors où? Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Et Paul va plus loin, 1 Timothée 6, 18 à 19. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il dit qu'il fasse du bien. Comment tu amasses? En faisant du bien. En faisant quoi? Du bien. Il dit qu'il soit riche en bonne œuvre. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'il soit riche en quoi? En bonne œuvre. Toi, tu n'es pas bon. Tu es toujours en train de dire tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Sache que c'est le matériel que tu envoies pour ta part de maison. Hein. Tu auras la maison d'un mendiant. Alléluia. Tu vas vite, tu seras au ciel, mais sous la tente. Même pas en calabo, la tente. Vous avez vu comment Kadhafi vivait sous la tente, non? Les amis du désert, les frères du désert, les Arabes, là, eux, ils vivent que sous la tente. Toi, tu vas être au ciel, mais dans la tente. Tout le monde ne sera pas au même endroit. Hein. Tout le monde ne verra pas Dieu de la même manière. Tout le monde ne verra pas Dieu de la même manière. Il y a des gens qui vont voir Dieu par rapport à la lumière de sa présence. Waouh, la lumière. La Bible dit qu'on le verra face à face. Toi, tu ne verras pas face à face. Toi, tu vas voir la lumière. Waouh. Waouh. Puisse l'Éternel t'envoyer devant. Puisse l'Éternel t'aider à amasser du trésor au ciel au nom de Jésus. Il dit qu'il soit prompt. Regardez le verset. Il dit qu'il soit prompt à donner. Prompt. C'est-à-dire quand c'est le moment de donner, tu n'hésites pas. Tu donnes sans hésitation. Quand il faut soutenir, tu soutiens sans hésitation. Libéraux. Ça m'assent comme trésor un bon fondement, une bonne fondation pour l'avenir. Afin qu'il saisisse ce qui est vraiment la vie. Alors, la façon dont nous nous comportons vis-à-vis des biens matériels, je l'ai dit dimanche ici, l'argent est un révélateur de caractère. L'argent est un révélateur de caractère. Beaucoup de personnes, face à l'argent, on sait s'ils aiment Dieu ou pas. Et les gens, ils vont dire, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, je suis là pour Dieu, je suis là pour le Seigneur, je suis là pour le Seigneur, je suis là pour le Seigneur. Lundi à dimanche, il est là, tu dis, la sœur-ci, oh Seigneur, regarde son prix, regarde son sacrifice. Lendemain, dès que l'argent entre, je n'ai plus le temps. Papa, apôtre, parlons, prie pour moi. Prie que Dieu m'aide à trouver le temps pour lui. Et vraiment, je suis occupé, occupé. Ah, ah. Tu envoies quel matériel? Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu envoies la terre. Alléluia. Alléluia. C'est très compliqué. Hein? Quel matériel envoies-tu pour ta part, pour ton avenir? Tu prépares ton avenir. Chacun est en train de préparer son avenir. Au ciel, tu vas vivre dans quel genre de maison? Dormir sous quel genre de lit? Manger dans quel genre de soupière? Et là, tu concentres tout sur la terre. Tout sur la terre. Là où les bandits volent. Avant, on appelait les bandits les Mazembe. Vous vous souvenez de l'époque là, non? Il y avait ce nom-là dans un journal de la place. Il y avait Mazembe et l'autre. Et donc, c'était un type là, je crois que ça devait être Popoli. Il avait fait, il faisait un dessin là et le bandit, il portait tout le nom de Mazembe. Du coup, c'est resté pour tous les bandits. Si vous lisiez le Popoli d'avant, pas celui d'aujourd'hui. Le Popoli là, et dedans, tous les bandits, le bandit qui était dedans, lui, son nom, lui, il avait trouvé son nom, c'était Mazembe. Je ne sais pas dans quelle tribu ça sortait, Mais c'est devenu le nom de tous les bandits de la planète. Alléluia. Alors, bien-aimés, la façon dont nous nous comportons vis-à-vis des biens matériels, la mesure dans laquelle nous y attachons, est un test qui permet de déterminer notre caractère. Est un test qui permet de déterminer notre caractère. Si un homme n'est pas fidèle dans sa manière de gérer les biens matériels, il ne peut pas s'attendre à ce que Dieu le fasse prospérer spirituellement, ni ne lui confie des trésors dans le ciel. Comment tu gères ce que tu vois? Si tu n'arrives pas à gérer ce que tu vois, comment tu peux gérer ce que tu ne vois pas? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment tu gères ce que tu vois? Comment tu gères ta maison? Comment tu gères ta chambre? Ta chambre est-tu désordonnée? Tu crois que ta vie spirituelle est comment? Amen. C'est Isaac. Alléluia. La démarche que tu as sur le plan physique s'applique sur le plan spirituel. S'applique sur le plan spirituel. La Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de Luc 16, 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et maman, ou Dieu et les richesses. Amen. La seule façon de s'amasser des trésors dans le ciel, c'est d'investir son argent dans quelque chose qui doit aller au ciel. J'aime cette phrase. C'est d'investir son argent dans quoi? Dans quelque chose qui doit aller au ciel. Je prends un exemple. Voici un enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu a des difficultés pour se soigner. Il a une facture de 50 000. Amen. Frère Samuel a une facture de 50 000 pour sa santé. C'est un enfant de Dieu que nous tous, nous avons le témoignage qu'il aime Dieu, qu'il sait Dieu, mais il passe par des moments difficiles. Amen. Alors, il vient vers toi qui a la possibilité d'avoir ces 50 000 sans qu'il ne jeûne ni ne prie. Alléluia. Tant qu'il ne jeûne ni ne prie. Il vient dire que, ouais, papa, maman, là où je suis là, voilà ma situation, voilà. Tu refuses de lui venir en aide. Tu dis non, frère, au lieu de lui donner 50 000 parce que tu as la possibilité, selon comment Dieu t'a béni, amen, tu prends 20 000, tu dis frère, je te soutiens avec 20 000. Maintenant, tu lèves l'écart de 30 000 pour qu'il aille jeûner et prier. La vérité, c'est qu'avant d'arriver chez lui, il aura dépensé les 20 000 là pour prendre d'abord le taxi et pour manger. Donc, en arrivant chez lui, ce ne sera plus 20 000. C'est pas ça, hein? Alors, l'as-tu aidé ou pas? Est-ce que quelqu'un a le micro là? Prenez le micro à côté de vous. Est-ce que tu l'as aidé? Quelqu'un prend la parole, il répond, il n'a pas été aidé parce que. Amen. Voilà, vas-y, papa Joseph.
Bonsoir, peuple de Dieu.
Bonsoir.
On ne l'a pas aidé parce que non seulement on ne l'a pas résolu le problème, mais on l'a amené encore à dépenser. Le peu qu'on lui a donné, il a dépensé. Ça ne lui servira pas. Ça ne pourra pas l'aider.
Bravo.
On ne l'a vraiment pas
en
aidé.
En fait, on a augmenté son problème. Alléluia. Et on a même augmenté sa maladie. Parce qu'il sort de là dépressif même encore. Alléluia. Et en cela, on n'a pas investi dans quelque chose qui va au ciel. Hello. Alors, en investissant les 50 000 là, j'investis au ciel. Je n'investis pas en lui. J'investis dans quelque chose qui va au ciel. Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? J'investis dans quelque chose qui va au ciel. Comment vas-tu amasser au ciel? Tu amasses ça comment? Tu prends, tu jettes au ciel. Si on te donne l'argent là, on te jette en haut si ça cale. On est d'abord lié à ce problème de la pesanteur. Amen. Donc tout ce que tu jettes en haut redescend automatiquement. Alors comment faire pour que ton investissement, ton amour, ta compassion, ton service, ta consécration puisse aller au ciel? En l'investissant dans quelque chose qui va au ciel. Quand tu soutiens la construction de l'église du Seigneur, tu investis pour ton travail, pour tes meubles. Tu investis pour... Il n'y aura pas de meubles en cuir au ciel. Hein? Le cuir, ça n'existe pas là-bas au ciel. C'est l'or et le diamant, frère. C'est les topazes. C'est les chrysolites. Les pierres précieuses qu'on ne trouve pas. Et quand on trouve, c'est tellement rare. On a bâti la cité céleste avec des pierres précieuses. Si un bandit voit, il va mourir de crise cardiaque. Tellement c'est beau. Alléluia. Et le goudron n'est pas, c'est pas avec les trous. Le goudron qu'on a ici, vraiment, on n'arrive pas à s'en sortir. Le goudron au ciel, c'est en pierre précieuse. Mais si on fait le goudron en pierre précieuse, ça veut dire que c'est la monnaie la plus vulgaire, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un suit? Si on fait le goudron avec les pierres précieuses, ça veut dire que c'est la monnaie la plus vulgaire. Ici, chez nous, c'est la monnaie la plus précieuse. Vous voyez sous la couronne de la reine d'Angleterre, lors de sa... de son couronnement et du couronnement du roi récemment encore. La couronne du roi qu'on a posée sur sa tête, il y a un diamant là. C'est un des plus gros diamants du monde. On a retiré ça où? En Afrique du Sud. Ils ont volé ça en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, les Africains du Sud sont en train de demander qu'on leur restitue le diamant. Toutes les pierres précieuses que vous voyez sur le roi là, ils ont pris quelque part. Pas dans leur pays, ils n'en ont pas. Mais à cause de la colonisation, ils ont pu... Oh, c'est l'une des pierres les plus grosses du monde. Mais la Bible dit qu'au ciel, on verra des pierres précieuses sous la forme d'un rocher. Jesus. Ce n'est pas la blague qu'on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague qu'on dit que Dieu, ton Père céleste est riche. Et que toi-même, tu es riche. Même comme aujourd'hui, tu guettes tes poches. Chaque jour, tu dis vraiment la richesse là, c'est de quel côté? Par la foi, Jésus est présent. Alléluia. Investis dans quelque chose qui va au ciel. Dis à quelqu'un, investis dans quelque chose qui va au ciel. Investis dans quelque chose qui va au ciel. Investis dans quelque chose qui va au ciel. Alléluia. Si quelqu'un vient, si tu vois ta soeur à l'église, tu la vois, tu as le même robe. Tu dis, toi tu as une garderie de robe là-bas. Tu viens, tu dis que, ah, ma fille, ma soeur, prends la robe aussi. Hein? Va la porter. Change celle-là que je te vois porter tout le temps. Alléluia. Pas que tu viennes par la prophétie, ainsi parler l'Éternel. Tu exposes la nudité de la sœur. Vous savez, il y a des gens qui sont malhonnêtes, méchants. Hein? C'est-à-dire, pour avoir le dessus sur toi, ils utilisent la prophétie pour dire que Dieu me dit de te donner l'habit. C'est quoi cette histoire? Dieu te dit de lui donner l'habit. Toi-même, tu n'as pas les yeux pour voir qu'elle n'a pas d'habit. Il faut seulement que le Saint-Esprit descende. Hein? Prenez une soeur comme ça, elle était toujours dans des conneries comme ça. Toujours des conneries comme ça. On veut faire quelque chose. Non, je ne peux pas donner. J'attends que le Saint-Esprit me parle. Et ça, c'est un chiche plus plus. C'est quelqu'un qui ne peut jamais donner. Amen. La Bible dit que nous devons abonder en bonne œuvre. Qu'est-ce qu'on doit, comment on doit connaître un enfant de Dieu? Quelqu'un qui aime donner aux autres. Pas quelqu'un qui aime écouter Dieu avant de donner. Ou c'est même Dieu, ou c'est leur ventre, c'est leur tête, c'est leur esprit. Ça n'a rien à voir avec Dieu en tout cas. Est-ce que quand Dieu te donne, il consulte quelqu'un? Parfois, d'autres disent, ah non, moi je ne veux pas, j'ai à donner aux gens, ils m'ont fait du mal. Ça fait quoi? Et on t'a fait du mal, tu es mort. Qui t'a préservé? Continue à donner. Jésus a donné, il n'est pas mort. Toi, tu es vivant. Alléluia. Dieu n'a pas donné jusqu'à tuer son propre enfant. Toi et moi, on est là, on est vivant parce que quelqu'un est mort. Parce que quelqu'un a fait le don de sa vie, on est vivant. Toi, tu ne veux pas toi mourir. Parce que, non. Comment on va savoir que tu es un disciple de Jésus? Par l'amour que tu donnes aux autres. L'amour que tu manifestes aux autres. L'amour que tu as dans la vie des autres. Le fait que tu te sens concerné par la situation des autres. Ce qui, est pour ton, ce qui attaque ton frère t'a attaqué. Alléluia. Oui. Si ton frère est triste, sois triste. Ça t'a fait. Parce que deux jours, tu vois, tu ne ris pas, ça me dérange. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu souris aussi? Ah, ma soeur, ça fait deux semaines, je n'ai même pas mangé. Tu dis, ok, ça, ce n'est pas un problème. Je vais me battre pour que chaque jour, tu aies au moins 1000 francs pour manger. Hein? Souris alors. Le jeûne de la soeur s'arrête directement, non? Alléluia! Il y a des personnes dans l'église qui sont maigres comme ça. Maigres. Ce n'est pas leur point, hein? C'est parce qu'ils n'ont pas à manger quotidiennement. S'ils mangeaient quotidiennement, leurs jours vont sortir naturellement. Comme pour toi. Mais parce que toi, tu n'es pas sensible. Alléluia. C'est ça notre rôle, notre responsabilité. Alors, quels sont les devoirs d'un administrateur? Quels sont les devoirs d'un administrateur? Premièrement, rappelez-vous dans notre texte de Luc 12 que nous avons lu. Luc 12, 42, notre premier texte de base, il dit, quel don, qui don est l'économe fidèle et prudent? C'est-à-dire que le premier devoir d'un administrateur, il doit être fidèle. Amen. Il doit être fidèle. Bien-aimé, la fidélité est une valeur importante pour réussir sa mission. Être fidèle, c'est refuser d'être changeant et divers. Non. Alléluia. Dans Luc 19, le verset 17, regardez ce que le maître va dire à son serviteur qui avait bien géré l'administration. Il dit, bon et fidèle serviteur. Luc 19, 17, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle. En peu de choses, tu auras l'autorité des 10 villes. Alléluia! La fidélité. Joseph a été fidèle dans la maison de Potiphar. Bien-aimé. La Bible nous dit dans Hébreux 3, le verset 6, « Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison comme serviteur. » Il a été fidèle dans toute sa maison comme serviteur. En témoignant des choses qui devaient être dites, mais Christ comme fils sur sa maison. Bien-aimé, sois fidèle. Sois fidèle. Et je vous l'ai dit, la fidélité a trait à la loyauté. Aujourd'hui, on a très peu de personnes loyales dans la maison de Dieu. Alléluia. Pour rien, on te trahit. Pour rien, on dit du n'importe quoi sur toi. Pour rien, on pense méchamment sur toi. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux comprendre la fidélité, tu dois voir ça dans le cadre d'un couple. Amen. D'un couple, d'un foyer, d'une relation d'hommes et de maris, de mariés et de femmes. La fidélité. La fidélité ne veut pas dire que l'autre est parfait. Non. Non. Christ est l'économe divin par excellence. Hébreux 3, verset 2, 3. La Bible dit que Jésus est fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison. Vous voyez, Jésus était fidèle dans sa part de maison. Frère, bien-aimé, es-tu fidèle? Je voudrais qu'on lise bien même. Hébreux 3. Hébreux 3, le verset 2 à 3. Alléluia. Hébreux 3. Dorénavant, il faudra garder un micro pour que quelqu'un m'aide à lire rapidement. Hébreux 3, je lis au nom de Jésus. Verset 2 et 3. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alléluia. Écoutez le verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoin de ce qui devait être annoncé. Vous voyez? Moïse, Jésus, chacun à son niveau a été fidèle. Nous avons le témoignage dans les Écritures. Ils ont été fidèles. À ton tour, Dieu attend de toi que tu sois fidèle. Deuxième devoir d'un administrateur. Il doit être irréprochable. Irréprochable. Alléluia. Tite chapitre 1, le verset 7. Tite chapitre 1, le verset 7. Alléluia. Tite chapitre 1, le verset 7. Est-ce que vous l'avez? Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu. Non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux. Est-ce que quelqu'un a retrouvé ça dans la version 8 secondes? Tite, c'est juste après Genèse. Ok, lis pour nous, papa.
Tite chapitre 1,
verset 7.
Verset 7, je dis au nom de Jésus. Car il faut que l'évêque soit irréprochable.
Il faut que l'évêque soit
irréprochable.
Irréprochable.
Comme économe de Dieu.
Comme administrateur, comme économe, comme intendant de Dieu. Amen. Maintenant, il explique en quoi il doit être irréprochable. Allons-y.
Qu'il ne soit ni arrogant.
Ni arrogant.
Ni colère.
Ni colère,
ni à donner au vin,
ni à donner au vin,
ni violent,
ni violent,
ni porteur d'un gain déshonnête,
ni porteur d'un gain honteux, déshonnête. C'est-à-dire qu'un voleur, amen, amen. Un escroc. Si dans l'église du Seigneur, tu es un escroc, tu escroques les frères, tu utilises ta position, tu utilises ta situation pour escroquer les frères et les sœurs, tu n'es pas dit d'être un économe. Alléluia. Voyez, tu ne peux pas être un administrateur, un économe, un intendant si tu as donné à la colère. Tu vas gâter chaque jour. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que tu vas commencer aujourd'hui, demain la colère va faire, tu vas gâter. Donc du coup, tu n'es pas bon parce que un économe doit pouvoir avoir la maîtrise de lui-même. Et je vous ai dit, rappelez-vous, je vous ai dit que l'une des choses que Dieu te donne comme pour administrer, c'est ton propre corps. Si tu n'as pas la capacité de gérer ton propre corps, tu ne peux pas gérer le corps des autres. Alléluia. Si tu n'as pas la capacité de faire taire ta colère, et tu ne peux pas dire à l'autre qui est en colère en face de toi, calme-toi. Non. Tu vas faire ça comment? Au contraire, ta présence va même augmenter sa part. Calme-toi, calme-toi. Si moi-même m'énerve, toi-même, tu vas confirmer ici que ta colère n'est rien à côté de ma part. Hein? Alléluia. Irréprochable. Un autre devoir d'un administrateur. Il doit bien gérer ses choses. Il doit bien gérer les choses de son maître. Alléluia. Il doit bien gérer les choses de son maître. Luc chapitre 19, le verset 15 au verset 16. Alléluia. Luc chapitre 19, le verset 15 au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il dit ceci. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il dit, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Wow. Il a bien géré. Quand tu gères bien pour les autres, quand tu gères bien ta part, tu peux gérer les autres. Alléluia. Oui. Il a fait valoir ce que son maître lui a donné. Il lui a donné 10 talents. Alléluia. Il a travaillé pour pouvoir le fructifier. Écoutez, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a établi. Allons-y dans Jean. Allons-y, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, le verset 5. Prenons à partir du verset 4 au verset 5. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, mais tu ne peux pas porter du fruit toi-même. Amen. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Bien-aimé, vous devez savoir que Dieu a horreur de la stérilité dans la vie d'un homme. Alléluia. C'est quoi parmi les bénédictions? L'homme n'a jamais demandé cette bénédiction. C'est Dieu qui l'a imposé à l'homme, la fécondité. Soyez fécond. Ça ne dépend pas de toi. C'est un ordre divin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que dès le départ, Dieu a réglé le problème de la stérilité par un décret divin. Dieu a réglé le problème de la stérilité dans tous les domaines de ta vie par un décret divin. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ça veut dire que quoi? En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu ne portes pas du fruit dans ce que tu fais, ce n'est pas de la faute du Seigneur. Hello? D'autres forces entrent en jeu. Et parmi ces forces, toi-même. Alléluia. Toi-même peut être un élément qui suscite la stérilité dans chaque domaine de ta vie, dans le don de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, normalement, quand Dieu te donne des mines, des talents, des dons, des capacités, il doit pouvoir revenir quelque temps avec ça, multiplier. C'est pourquoi j'ai encouragé l'exercice que papa Emma est en train de faire depuis lundi dernier avec les leaders. J'ai lu le rapport. C'est une manière de rendre compte Alléluia. Chacun doit rendre compte de son administration depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois que tu as la responsabilité, à quel niveau es-tu? Amen. Comment as-tu multiplié ce que tu as reçu comme mandat? C'est très important. Si tu es un chrétien qui ne rend pas compte, aujourd'hui on a ce problème dans l'église. Les gens ne rendent plus compte. Alléluia. Chacun dit, écoutez le Saint-Esprit. Quand tu es né, quand tu dis quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, il part. Je vais aller dans une autre église, m'asseoir, le pasteur là va m'accepter, même il veut les chrétiens. Alléluia. Oui, bien-aimé, écoutez-moi, si tu n'es pas courageux, parce que rendre compte, c'est être courageux. Hein. C'est être courageux. Quand quelqu'un ne rend pas compte, c'est un faible. C'est un malhonnête. Il a des choses à se reprocher. Alléluia. Mais quand tu rends compte, ça veut dire que tu te soumets au jugement des autres. Tu te soumets à l'appréciation des autres. Que les autres puissent dire, non, ce n'est pas bon. Tu dis, ok, j'ai compris. Et c'est aussi le moment pour toi de te réévaluer. Amen. Alors, si un leader, si un disciple, si un administrateur ne se réévalue pas lui-même, si tu ne t'évalues pas toi-même, tu auras du mal à accepter l'évaluation des autres. Alléluia. Alléluia. Tu auras du mal. Fais ça, lève-toi, tu marches. Ce n'est pas bon de se tenir devant le pasteur. Tu es dans l'intercession permanente. Tu peux venir le jeudi, rejoindre les mamans Gertrude. Tu vas faire ça là-bas avec elle. Alléluia. Elle va t'aider à bien prier, les yeux fermés. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, chacun doit s'évaluer. Quand tu t'évalues sainement des autres, tu n'as pas peur du jugement des autres. Parce que tu t'es déjà évalué, tu t'es déjà jugé toi-même. Alléluia. Mais quand tu ne t'es pas encore jugé, tu auras peur de ce que les autres vont penser de toi. Tu auras toujours peur de ce que les gens vont penser de toi. Il doit bien gérer les choses de son maître. Quatrième devoir d'un administrateur, il doit rendre compte devant son maître. Alléluia. Il doit rendre compte devant son maître. Il doit rendre compte. Un bon administrateur doit rendre compte. On t'a fait quelque chose, tu reviens, tu ne rends pas compte. Ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Si on t'a donné une tâche à l'église, dès que celui qui t'a donné cette tâche arrive, rends compte. N'attends pas qu'il t'appelle, viens me rendre compte. Non, ce n'est pas bon. Si moi, je te confie une tâche et que c'est moi qui t'appelle, tu n'es pas un bon administrateur. Une fois, deux fois, je ne t'appelle plus. Alléluia. Alléluia. Si vous allez dans les entreprises, vous allez constater que des entreprises où il y a un directeur général, vous allez vous rendre compte que le lundi matin, tout le secrétariat est devant le bureau pour attendre avec les parapluies. Alléluia. Pourquoi? Chacun rend compte. Voilà, tel a demandé ça, tel a demandé ça. Il apprécie. Tampon à gauche, tampon à droite, tampon à gauche, tampon à droite. Il valide, il invalide, il valide, il invalide. Alléluia. Ce n'est pas lui qui arrive, il appelle. Venez! On l'attend. Amen. C'est ça l'administration. Si papa et maman te donnent une charge, tu attends que c'est lui qui t'appelle. Tu n'as pas compris là où tu pars. Ça veut dire que tu es un visiteur, tu es en vacances dans la fonction là. Alléluia, tu es en vacances. Tu es en vacances. Alléluia. Alléluia. Papa Joseph, tu as travaillé dans une administration où on évaluait et où on rendait compte. Alléluia. Même le jour où tu pars du travail, on vérifie si tout est là. C'est pas ça, je dis, Daniel. C'est ça. On vérifie. Tu rends compte, même le big que tu as écrit avec, jusqu'à son milieu, tu laisses. Tu pouvais dire, ah, c'est au milieu, ils vont faire quoi avec le big? Ça ne t'appartient pas, c'est le big de l'entreprise. À cause de ce big, on peut te créer tous les problèmes de la terre. Alléluia. Donc, sachez que même dans la maison de Dieu, on rend compte. On rend compte. Luc 12, le verset 46 au verset 48. Luc 12, 40, j'ai dit 46 à 48, voilà, 46, 48. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Vous voyez? Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Tu connaissais ce que ton maître aime. Tu connais comment il veut que tu fasses, mais tu fais ta part. Est-ce que vous lisez avec moi? Et qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Verset 48, il dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Celui qui n'a pas connu la volonté, mais a mal fait, sa part de sanction ne sera pas difficile parce qu'il ne connaissait pas. Il bénéficie d'une faveur. Alléluia. Mais toi, tu connais qu'on rend les choses comme ça, mais toi, tu rends de cette autre manière. Tu connais que lorsqu'on arrive, on nettoie l'église avant de placer les chaises. Tu ne fais pas. Ça veut dire que tu es un rebelle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça veut dire que tu es un rebelle. Tout simplement. Romains 14, le verset 12. Romains 14, le verset 12. Voici ce que Paul dit aux Romains. Il dit, ne nous jugeons. Non, verset 14. Il dit, je sais et je suis persuadé. J'ai dit Luc, Romains combien? 14. Romains 14. OK, le verset 12. OK. Il dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Rendra compte à Dieu pour qui? Pour lui-même. Ça veut dire que quoi? Tu ne vas jamais te retrouver devant Dieu. C'est à cause de tel. Non, 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 non. Et c'est ça un problème dans l'église aujourd'hui. Personne ne rend compte pour lui-même. Oh, si j'ai fait ça, c'est parce que. Si je me suis, c'est parce que non. Tu n'es pas un bon administrateur. Si tu étais un administrateur qui cherche toujours à relativiser ta responsabilité, tu es un visiteur. Mais si tu es un responsable, un disciple qui assume tes responsabilités, qui dit oui, j'ai fait mal ici, j'ai bien fait ici, j'ai mal fait ici, je m'engage à changer. Dieu est content de toi. Alléluia. Tu rends compte pour toi-même. Tu dis, en ce qui me concerne, voilà ma part. Pour les autres, je ne peux rien dire parce que je ne peux pas savoir. Amen. Même si tu sais, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas à toi de rendre compte. Il y a des gens... Quand tu les interpelles sur quelque chose, ils racontent la vie personnelle des autres. Au point où tu te perds. Ah bon? Ah bon? Et comme tu es aussi un responsable congociste, ça t'intéresse? Alléluia. Dis-moi plus. Tu dis que tu as d'abord dit que tel a dit que quoi? Non. Mais c'est fini. Le dossier pour lequel tu l'as interpellé, ça a disparu dans les tiroirs. Du Congo, ça, du commérage. Hein? Pardon, pardon. Chaque fois qu'il parle, il faut revenir me dire. Et pour le dossier là, laisse. Va d'abord là-bas. Va d'abord faire ce qui était dit. Il a oublié ta faute. Hein? Mauvais administrateur. Mauvais gestionnaire. Alléluia. Alléluia. Papa, il m'a dit Maman, j'ai tout, viens me rendre compte. Ah! Non, si, attends. Et Dieu m'a au courant que Frère Yom Kil a fait ça. Hein? Frère Yom Kil m'a dit que ta tête est grosse comme ça. Hein? Tu ne savais même pas ça. Papa Emma. Papa Emma dit que hé hé. Donc, mais descend comme ça. Alléluia. Du coup, papa Emma n'est plus dans le dossier pour lequel il a convoqué maman Gertrude. Et maman Gertrude a trouvé la pichette pour fuir. C'est-à-dire que quoi? Elle a rendu compte d'une autre administration. Mauvais administrateur. Tu dois rendre compte. Pas pour les autres, pour toi-même. Pour toi-même. C'est en cela qu'on peut aussi t'apprécier. Alléluia. Alléluia. Deux Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, 10. Il dit, car il nous faut tous, voilà, j'aime ce verset, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun fasse quoi? Lisons ensemble. Que chacun fasse quoi? Reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Étant où? Étant en esprit. Dans son corps. Ça veut dire que comme tu es là, tu vas rendre compte de ce que tu as fait en bien et de ce que tu as fait en mal au tribunal de Christ. Chacun va rendre. Alléluia. Alors ne blague pas avec ton service. Ne blague pas avec ta manière de travailler. Ne blague pas avec les responsabilités que le Seigneur t'a données au travers de ses serviteurs. Alléluia. Ne blague pas. Ne blague pas. Alors, parlons des biens. Réalisons quelques dangers des biens. On va terminer sur ça. Alléluia. Les biens. Alors, allons-y dans Matthieu. Matthieu, chapitre 19, le verset 23. Matthieu 19, le verset 23. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Waouh! Quel décret dangereux. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Lisons le verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, j'imagine que chacun ici a l'image d'un chameau dans sa tête, n'est-ce pas? J'imagine également que vous avez l'image d'une aiguille, le trou d'une aiguille dans votre tête. Maman, j'ai tout à les aiguilles chez elle, plein à craquer. Alléluia. Donc, elle peut mieux matérialiser l'aiguille. Et un chameau! Jésus dit que c'est plus facile pour le chameau de passer par le trou de l'aiguille là qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le riche, ses biens lui donnent plus de poids qu'un chameau. Alléluia. Le danger des biens. Alléluia. Premièrement, les biens, lorsque tu t'y attaques, les biens deviennent un danger lorsque cela devient un but dans la vie d'un homme. Amen. Un but. Il y a des gens qui vivent pour avoir l'argent. Sinon, pas, non, leur vie n'a pas de sens. Non. L'argent est un serviteur et non un maître. Ne fais pas de l'argent un maître. Il va te manipuler et te mettre dans bien des tourments. Alléluia. Et Paul le dit, 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 à 10. Il dit, oh, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Il dit ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de tourments, de beaucoup de douleurs. L'amour de l'argent. L'ambition de l'argent ne satisfait jamais. L'argent ne doit pas être une ambition dans ta vie. Amen. Beaucoup ici travaillent. Si l'argent est mis devant comme la priorité, tu vas avoir beaucoup de stress dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Non. Dieu est prioritaire dans ta vie. L'argent t'aide à améliorer ton quotidien, mais pas comme ton Dieu. Ne fais pas de l'argent ton Dieu. Amen. Proverbes chapitre 23, le verset 4. Il dit, ne te fatigue pas pour acquérir des richesses. Finis-en avec ta prudence. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas pour acquérir les richesses. Bien aimé. C'est très compliqué. Ne te fatigue pas. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. N'y applique pas ton intelligence. Alléluia. Ecclésias chapitre 5. Ecclésias 5, le verset 10, le verset 11. Juste après. Ecclésias 5, le verset 10 au verset 11. 10, 11. Il dit, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit à ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Ok. Le rassasiement du riche. Quand quelqu'un est trop riche, il ne dort plus bien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Mais le travailleur, il dit le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup. Amen. Il dit, mais le rassasiement, dans une autre version, on parle de l'augmentation des biens. Alléluia. Regardez les hommes qui deviennent riches, ils deviennent même bizarres. Regardez les hommes les plus riches du monde. Il y a un homme qui était tellement riche. En mourant, il a donné ça au chien. Il a fait du chien son héritier. Son héritier, bien-aimé, avec tous les gens qui meurent de faim sur la terre. Il choisit de nommer son héritier le chien. Mais vous voyez qu'à un certain niveau, les gens, leur cerveau débloque. Vous avez vu combien de millions on a sorti dans la maison de quelqu'un au Gabon? Vous avez vu à la télé? Quand l'argent arrive de partout, un certain niveau d'argent te rend fou. Tu n'es plus normal, tu décolles, tu ne sors. C'est pourquoi il y a certains gens qui ne vont jamais accepter que tout va mal hein, dans ce pays. Parce qu'ils ne mangent pas la même chose que tu manges. Ils ne marchent pas dans les mêmes rues. Quand ils veulent aller d'un point à l'autre, c'est l'hélicoptère qui les porte. Tu vois que vous avez les mêmes problèmes. Lui, il a le problème d'ajouter 1 milliard, de voler 1 milliard. Un intervieweur, un homme à la télé, il a dit que, il disait aux journalistes, est-ce que tu comprends 1 milliard? C'est 100 millions. C'est-à-dire que s'il doit même manger 1 million par jour, il ne va pas finir l'argent là. 100 millions, mais quelqu'un vole 40 milliards. Merci, maman. 1000 millions, c'est pas vrai. Hey, les chiffres-là, on construit 10 temples dans chaque région du Cameroun. C'est pas vrai. Et les gens, ça chez eux, dans cette période-ci des temps de la fin-ci, les gens, on ne garde plus l'argent à la banque. Hein? On voit ça avec les crises. Regardez au Gabon. Les gars étaient des banquiers eux-mêmes. Jesus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas seulement le franc CFA, ils avaient les devises étrangères. Ils avaient les devises, ils n'avaient plus besoin. Jesus. Jesus. Il a à peine 40 ans. Regardez, le président du Gabon a demandé que tous ceux qui avaient pris viennent remettre en termes de voitures. On est allé sortir chez quelqu'un 300 voitures. On a sorti chez un autre 150 VX. Attends, il roulait dans tout ça. Mais ce n'est pas la méchanceté que c'est quoi? C'est la méchanceté. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est difficile pour un riche. Parce que sa richesse devient la méchanceté. Il vous nague avec. Il vous mate. Et c'était des voitures neuves. Hein? Il n'est jamais entré dedans. On a sorti chez quelqu'un 50 pick-up. Neuf. Il dit que Jesus. Mais n'est-ce pas, nous, on cherche qu'une seule voiture parce qu'on n'est qu'un, non? Tu conduis, tu rentres, c'est bon. Quelqu'un vient chez un concessionnaire, il dit que vous avez combien de pick-up? On dit, on a commandé 100. Il dit, les 100, j'achète. Il dit, il fait quoi avec? Il fait l'exploitation, il fait le cacao, il ramasse le sable pour aller donner dans son village. Et maintenant, il achète un espace de terre. Il construit un grand hangar, il garde tout ça là-bas. Avec des bus. Tout neuf. Tout neuf. Il est difficile pour un riche. L'argent, quand l'argent devient un objectif et un but dans la vie, tu deviens malade mental. Tu n'es plus humain. Amen. Tu n'es plus humain. Un autre danger des biens. La richesse devient Dieu auquel on se confie. Vous allez voir des gens qui disent, ah, dis donc, tu me parles quoi? Tu sais que l'argent, il est mon Dieu. Toi, tu n'as rien. Alléluia. Il y a des gens qui te définissent en fonction de ce que tu as. Si tu n'as rien, tu ne vaux rien. Ta parole n'a pas de sens. Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre et la cupidité qui est de l'idolâtrie. La cupidité. La cupidité. Proverbe 11, le verset 28. C'est lui la tombe qui se confie en ses richesses. Qui se confie en ses richesses. Bien-aimés, veillons à ce que nos cœurs ne s'élèvent pas après avoir reçu des biens matériels. L'orgueil nous empêchera l'accès au ciel. 1 Timothée 6, le verset 17 à 19. Tu le liras à la maison. 1 Timothée 6, le verset 17 à 19. Et un dernier élément, un des derniers dangers des biens matériels. La bonne attitude. La bonne attitude. Allons-y dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 30. C'est une prière de David. Alléluia. De David qui va confier cette prière à Salomon. Alléluia. Le verset 7 et le verset 8. Écoutez la prière. Il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. C'est ma prière pour toi ce matin, ce soir. Ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Alléluia. Ni pauvreté, ni richesse. Ni pauvreté, ni richesse. Que Dieu ne t'accorde ni pauvreté, ni richesse. Qu'il te donne de quoi tu as besoin. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux sur lesquels il t'a donné la responsabilité au nom de Jésus. Que tu ne manques pas pour prendre soin des hommes, pour prendre soin de ta famille, pour prendre soin de toi-même au nom de Jésus. C'est très important. Beaucoup de gens, quand ils n'ont pas encore atteint un niveau financier important dans leur vie, ils sont encore des humains. Oui, c'est encore des humains. C'est encore des humains. Que Dieu nous préserve. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. C'est-à-dire que tu dois te contenter de ce que tu as. Tu dois bénir le Seigneur pour ce que tu as. Ça te prépare pour ce que tu vas avoir encore de demain. Alléluia. Si tu grandis dans cette attitude de reconnaissance par rapport à ce que Dieu te donne, l'argent ne va pas te manipuler demain. Alléluia. Aucun homme ne te manipulera avec de l'argent demain. J'écoutais encore ce papa hier qui parlait pour l'innovation de l'église de son fils. Il disait, j'ai eu l'opportunité, Dieu m'a amené dans les palais des hommes les plus riches de ce monde-ci. J'ai eu accès dans les palais des rois, dans le palais des princes, dans le palais des princesses, dans le palais des présidents. J'ai eu accès à de l'argent, à de l'or, à des diamants. J'ai vu. Et tout cela ne m'a pas impressionné parce que j'avais déjà vu quelque chose de plus grand au ciel. Alléluia. Et c'est là où je dis souvent, c'est là où je dis que beaucoup de choses nous impressionnent parce que nous ne savons pas d'où nous venons. Si tu connais qui est ton père, si tu connais d'où tu viens, quand quelqu'un va faire, tu restes toi dans ton couloir, tu avances tranquillement. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.